Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Encore une fois, ce matin, notre joie est grande. Pendant que nous adorons le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 19 pour l'entendre parler. Comme vous le savez, si vous avez été avec nous les dernières semaines, nous examinons ce grand chapitre dans notre étude actuelle, et nous voyons que les 12 premiers versets contiennent l'enseignement de notre Seigneur sur le divorce. C'est un sujet très pertinent de nos jours, et nous avons examiné exactement ce que le Seigneur dit dans ce texte. C'est très important de le faire, afin de poser une fondation solide pour notre compréhension de la volonté de Dieu relative au mariage et au divorce. Je voudrais maintenant que nous retournions à ce texte. Je vais vous faire survoler rapidement la première partie, et nous allons ensuite commencer au verset 10, où nous nous sommes arrêtés. Gardez en pensée que les deux premiers versets nous situent dans le contexte. Le Seigneur a clos un enseignement sur l'attitude d'enfant que doit avoir le croyant, au chapitre 18. Enseignement donné dans une maison, à Capernaum. La fin de ce discours marque la fin de son ministère galiléen. Pendant plusieurs années, il a été là, à enseigner, prêcher et guérir les gens, opérant des miracles, révélant son identité de Messie, proclamant la vérité de Dieu, et maintenant, il a fini avec la Galilée et entame un voyage vers le sud, un voyage qui, dans quelques mois, le conduira à sa mort et à sa résurrection. En cours de route, il traverse le Jourdain à l'est et va dans une région connue sous le nom de Pérée, ou l'autre bord. Dans les chapitres 19 et 20, nous avons ce qui est connu comme étant le ministère de Pérée. Il ressemble au ministère galiléen, sauf qu'il est plus bref. Le Seigneur prêche, enseigne, guérit, et des foules le suivent. Sans aucun doute, la majorité n'avait pas cru, mais certains avaient cru. Alors, pendant ce ministère péréen, au tout début, il est confronté par ses ennemis jurés, les pharisiens, qui se sentent intimidés par le Seigneur et ses enseignements, parce qu'aussi bien lui que ses enseignements leur sont diamétralement opposés. Il lui pose donc une question qui en fait n'en est pas une. Je veux dire, en d'autres termes, qu'il n'avait aucune intention d'entendre une réponse. Il n'était pas en quête d'information. Il cherchait uniquement à le piéger. Le verset 3 dit qu'il l'éprouvait. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Maintenant, il posait la question avec l'intention de discréditer publiquement Jésus, parce qu'il savait que c'était l'opinion populaire, que l'on pouvait répudier sa femme pour n'importe quelle raison. C'était la norme dans ce monde. Et si Jésus avait dit non, ce n'est pas permis. Et il savait qu'il le ferait, parce qu'il l'avait déjà enseigné. S'il pouvait le discréditer devant la population de Pérée, il pouvait immédiatement éliminer son ministère. Et ces hommes étaient habitués à divorcer. Cela faisait partie de leur culture. Tout le monde le faisait. C'était une sorte de roue libre, et si Jésus avait tracé une ligne dure, les gens auraient peut-être arrêté de le suivre, pensait-il. Ainsi donc, notre Seigneur est confronté avec une question à une époque pas différente de la nôtre, puisque même à notre époque, avoir une position ferme par rapport au mariage, soutenir une vision biblique du divorce, est impopulaire. Non seulement en dehors de l'Église, mais même dans l'Église. Ils essayaient donc de discréditer Jésus aux yeux du peuple en faisant de lui une personne radicale et légaliste. Deuxièmement, le gouverneur de cette région était un homme appelé Hérode Antipas, qui avait déjà décapité Jean-Baptiste pour avoir eu une position aussi radicale, et il se disait qu'il pouvait faire plus que juste discréditer Jésus. Peut-être pouvait-il même le détruire, s'ils arrivaient à le pousser à prendre une position ferme, parce qu'il serait alors opposé à Hérode Antipas et à son mariage illicite et incestueux avec la femme de son frère. Cela aurait peut-être entraîné la mort de Jésus pour leur grand bonheur. Ils posèrent donc la question de savoir s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif. C'est ce que nous avons appelé l'attaque. Et c'est bien une attaque. Le deuxième point que nous avons vu était la réponse de Jésus. Et Jésus leur répond, mais pas une réponse venant de lui. Il cite Dieu. Il les ramène tout au début dans Genèse. Genèse 1, verset 27. Genèse 2, verset 24. Et il leur dit au verset 4, « N'avez-vous pas lu ? En d'autres termes, ce n'est pas avec moi que vous discutez, mais avec Dieu. Je me souviens des paroles du vieux docteur Bob Jones, qui a dit une fois, « Si vous n'aimez pas ce que je dis, ne m'appelez pas, appelez le ciel. » C'est Dieu qui l'a dit, « Ce n'est pas avec moi que vous devez discuter, mais avec lui. » Et c'est vrai. Jésus dit la même chose. Il dit, « Si vous avez à redire, ce n'est pas avec moi, c'est avec Dieu. » Si vous n'aimez pas ce point de vue, ce n'est pas votre argument. Ce n'est pas avec moi que vous devez le débattre. C'est Dieu que vous devez approcher. N'avez-vous pas lu que Dieu a dit « Un homme, une femme » et il le dit dans Genèse 1, verset 27, « Homme et femme, il les créa ». En d'autres termes, l'intention de Dieu à la création était évidente. Il créa un homme et une femme. Il n'y avait pas de réserve. Et il prévoyait que ce soit un homme et une femme pour la vie. C'était cela le modèle. Deuxièmement, il dit qu'il devait s'attacher. C'est le mot « coller », un lien fort. Puis troisièmement, il dit « Les deux deviendront une seule chair, et lorsque deux deviennent un, ils ne sont plus deux, et ne peuvent être donc divisés. Finalement, le mariage est une œuvre de Dieu, et ce que Dieu a uni, que personne donc ne le sépare. » Dieu dit donc « Non, vous ne pouvez pas répudier votre femme pour n'importe quel motif, pour quatre raisons. Dieu a fait un homme pour une femme, un lien fort, une seule chair. C'était son œuvre créatrice, et vous ne pouvez pas la détruire. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. » La fin du verset 6. Ils avaient sans doute anticipé que Jésus prendrait cette position radicale. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient que Jésus citerait dans Genèse, mais ils avaient certainement anticipé cette position radicale, et ils avaient donc une deuxième question pour le confronter. Ce qui nous conduit à l'argument au verset 7. Voici leur argument. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Si Dieu avait établi au départ un standard de non-divorce, si l'intention de Dieu était qu'il n'y ait pas de divorce, pourquoi Moïse a-t-il prescrit le divorce? Vous vous souvenez que nous l'avons déjà abordé. Ils l'avaient tiré de Deutéronome 24, et ils l'ont déformé, parce que dans le texte de Deutéronome 24, des versets 1 à 4, Moïse ne prescrit pas le divorce. Il n'y a qu'un seul commandement dans ce texte, celui de ne pas épouser une femme adultère, souillée. Il n'y a aucune recommandation à divorcer. Ainsi donc, ils répudiaient leur femme et en conséquence semblaient être justes. Et ils en faisaient une sorte de promotion de la justice personnelle du divorce en transformant Deutéronome 24 des versets 1 à 4 en un commandement de divorcer, alors que ce n'est pas le cas, et nous l'avons vu. Moïse tolérait le divorce. Et c'est ce que notre Seigneur dit au verset 8 et 9. Il réaffirme le standard divin. Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, c'est-à-dire l'intention originelle de Dieu pour la création, il ne devait pas exister. Il dit donc que ce n'était pas un ordre, mais une permission. Et nous l'avons étudié de manière détaillée. Il y avait dans l'Ancien Testament une permission pour divorcer. Et au verset 9, Jésus le réitère, « Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Jésus réitère en d'autres mots, la seule raison pour divorcer dans l'Ancien Testament, l'adultère. Il se retrouve sous la vaste catégorie, la fornication ou le péché sexuel. Il n'était pas question qu'il y ait divorce dans le cas où une personne avait commis l'adultère, puis s'en était repentie. Le divorce était une option. En cas d'adultère endurci de cœur, d'une personne non repentante. Si la personne se repentait, elle devait être reprise avec amour, comme Dieu aurait repris son épouse adultère, Israël, comme Osée avait racheté Gomère, sa femme adultère. Mais dans les cas où il y avait continuellement une dureté de cœur et qu'il n'y avait pas de repentance, si la personne adultère n'arrêtait pas avec l'adultère, alors l'Ancien Testament permettait, comme une concession miséricordieuse pour le conjoint innocent, un divorce. Ce n'est pas une grande concession, parce que celui qui commettait l'adultère méritait quoi ? La mort. Et si Dieu tuait l'adultère, Le conjoint innocent était libre de se remarier de toute façon. Alors si Dieu, par sa grâce, épargne la vie du coupable, nous pouvons voir combien il est raisonnable que le divorce libère le conjoint innocent pour qu'il se remarie, et ceci nous l'avons vu aussi de façon détaillée. Le Seigneur ne fait donc qu'affirmer le standard de l'Ancien Testament. Leur question est donc très simple. Peut-on divorcer pour n'importe quelle raison? Et il répond non. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Pourquoi Moïse l'avait-il donc permis? Il l'avait permis à cause de la dureté des cœurs. Mais encore, il n'avait été permis que pour une raison dans l'Ancien Testament, et c'est graphiquement illustré par notre Seigneur lui-même, dans Jérémie 3, verset 8. Quand, après 700 ans d'adultère spirituel d'Israël avec les idoles, il finit par dire « Je te répudie ». Dieu avait répudié Israël pour cause d'adultère spirituel. Ceci ne veut cependant pas dire que vous pouvez répudier votre conjoint pour cause d'adultère spirituel, pour quelque chose que votre conjoint fait dans sa pensée. Lorsqu'il s'agit des êtres humains, il s'agit de l'union adultère même, l'acte d'adultère même, et rien de moins que cela. Mais Dieu est l'illustration de celui qui divorce à cause de l'adultère. Mais divorcer pour toute autre raison, selon notre Seigneur, pousse les gens à se remarier, à devenir des adultères, et ils sont donc tous souillés. À ce moment, les pharisiens ont disparu. Ils disparurent parce qu'ils avaient été exposés comme étant des adultères, parce qu'ils se tenaient debout là, devant faire face à la réalité suivant laquelle tout divorce, pour toute autre raison que l'adultère, faisait de vous un adultère quand vous vous remariez, et le fait est qu'ils l'avaient fait peut-être des myriades de fois, présentés par ces groupes qui étaient là et qui n'étaient rien d'autre qu'une bande d'adultères. Et ils pâlirent immédiatement. On ne les revoit plus. Mais à ce moment, les disciples sont abasourdis par cet enseignement de notre Seigneur. Et la scène continue dans une maison, au verset 10. Le Seigneur s'assoit avec les disciples, et je suis sûr qu'ils ont poursuivi cette discussion, ainsi que plusieurs autres sur le mariage. Nous aurions aimé avoir une copie de cette discussion. S'il y a une catégorie de vérité que nous aimerions voir davantage dans la Bible, c'est celle sur le divorce et le remariage. Mais nous n'entendons pas la conversation. Nous avons juste la réponse. Maintenant, ils sont dans la maison, et les disciples sont rassemblés autour du Seigneur, et la force de son enseignement sur le mariage et le divorce leur avait fait grande impression. Ils en étaient en fait choqués. Ils sont franchement effarouchés, parce que Jésus n'est pas éloigné de la loi de l'Ancien Testament d'un brin. Il n'a fait que la réaffirmer. Pas de divorce. Et franchement, si Dieu punissait de la peine capitale, qui est la mort, les adultères selon Lévitique, il n'y aurait pas de divorce. Mais dans sa grâce, Dieu admet que certains adultères vivent. Le divorce peut être donc une concession miséricordieuse, là où l'adultère émane d'une dureté de cœur, et est irréconciliable. Là où il y a la repentance, il y a encore une place pour le pardon, mais pas de divorce pour toute autre chose. Aucune inconvenance ne doit donner lieu au divorce. Rien d'autre à part l'adultère. Et ils sont très, très curieux de l'entendre. Ils ont en effet grandi dans une culture où le divorce était rampant, tout comme la nôtre. Par conséquent, tout ce que le Seigneur a dit les laissait pensifs. Et nous arrivons donc au cinquième point de notre canevas, de ces 12 versets, que nous appelons « appropriation ». Comment ces hommes s'approprient-ils cette vérité? Comment la gèrent-ils? Ces propos ont vraiment bouleversé leurs pensées. C'était une expérience étrangère à leur époque, à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ils ont, par exemple, été élevés dans une culture où le divorce était pratiquement une vertu. Permettez que je vous cite certains écrits talmudiques des rabbins, de ceux qui ne verront jamais les flammes de l'enfer, et comptez celui qui a une mauvaise femme. Un tel homme échappe à l'enfer parce qu'il a expié ses péchés sur terre. Une autre citation. Une mauvaise femme est comme la lèpre pour son mari. Quelle est la solution? Qu'il la répudie et qu'ainsi il soit purifié de sa lèpre. Puis encore, si un homme a une mauvaise femme, c'est un devoir religieux que de la répudier. Voilà donc ce qu'ils enseignaient. Pouvez-vous imaginer vos enfants grandir sous cet enseignement? Si vous avez une mauvaise femme, répudiez-la. Mais c'est l'enseignement qu'il recevait. Ensuite, le Seigneur entre en scène et dit de ne pas divorcer, et que ce n'est qu'à cause de sa miséricorde que Dieu concède un divorce, et tout d'un coup la tension évidente entre ce qu'ils entendent de la bouche du Seigneur et ce qu'ils ont expérimenté dans leur société et si forte qu'ils en perdent leur latin. Ils regardent donc ce standard très étroit, très dur. Et voyez leur réaction au verset 10. Ses disciples lui dirent « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Comprenez-vous ce qu'ils disent ?»« Mon ami, si vous vous retrouvez avec ce problème et que vous ne pouvez pas en sortir, il vaut mieux n'y être jamais entré. » Voilà ce qu'ils disent. Être lié à une femme dont seul l'adultère peut vous séparer et être obligé de vivre avec toutes ces autres idiosyncrasies, sauf l'adultère. Si elle est juste bizarre et fait des choses étranges, ou si elle ne vous rend pas heureux et tout le reste, vous êtes bloqué pour le restant de votre vie. Oubliez ça. Il vaut mieux être célibataire. Bien, ils avaient très bien perçu ce que le Seigneur disait, n'est-ce pas? Ils l'avaient bien perçu. Mais puis-je dire, en passant, qu'ils n'avaient pas nécessairement raison? Ce n'est pas nécessairement mieux d'être seul. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme eux de nos jours. Ils évitent le mariage parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre des engagements à vie. L'avez-vous remarqué? Mon ami, je ne me marierai jamais. La dernière chose que je veuille faire, c'est prendre un engagement à vie. Ainsi, les gens évitent le mariage aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas prendre des engagements. Ils veulent juste voltiger, d'une romance à l'autre. Sans engagement, ils perdent la plus riche des significations de la vie, à savoir une vraie relation d'amour qui dure toute la vie et se contente d'une contrefaçon bon marché. Écoutez ce qui est dit, par exemple dans Proverbes, et nous pouvons regarder plusieurs textes, mais voyons juste quelques-uns ici. Chapitre 5 et verset 15. « Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. » Ce passage signifie « Aie ta propre femme. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Votre source ici est votre capacité à procréer. Que cela ne se fasse qu'avec votre femme. Que ta source soit bénie et qu'elle fasse la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré par ses charmes, sans cesse épris de son amour. En d'autres termes, il y a un merveilleux et enthousiasmant élément du mariage, et c'est une bonne chose. C'est une chose bénie. C'est une chose donnée et établie par Dieu. Dans Proverbe 18, il est dit au verset 22, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Le chapitre 19, verset 14, dit qu'une femme sage est un don de l'Éternel. La Bible dit donc que le mariage est une bonne chose. Dans 1 Pierre 3, verset 7, Pierre l'appelle la grâce de la vie. C'est un peu comme la crème fouettée sur le dessus. C'est la meilleure chose de la vie. C'est bon. Alors quand ils disent que ce n'est pas bon de se marier, ils pensent à une attitude très ordinaire. « S'il faut que j'entre dans un deal pour y rester toute ma vie, sans pouvoir en sortir, autant ne pas le faire. » Et nous voyons ce type de mentalité de nos jours, où nous remarquons que les gens ne sont pas disposés à se marier. Les mariages ne durent pas, parce que les gens ne se marient pas pour les bonnes raisons. Ils ne se marient pas pour prendre des engagements. Ils ne se marient pas poussés par la compréhension de la vertu et du caractère. Laissez-moi voir si je peux vous l'illustrer. Les gens de nos jours sont fondamentalement à la quête des sentiments romantiques. Ils poursuivent des émotions romantiques. Un nouveau livre a été publié. J'ai vu la publicité la semaine dernière. Il est intitulé « Amour et l'immuration ». Je pense que c'est l'immuration. C'est un néologisme. L'immuration est censée indiquer les cloches qui retentissent. Quand vous avez ce stupide moment de sentiments romantiques, quand vous êtes dans une stupeur tout le temps, et vous savez, tout n'est que cœur et fleurs, une sorte d'amour d'adolescent, un engouement, et toute appellation que vous voulez donner. Mais je voudrais que vous vous absteniez de tout commentaire sur ce sujet, les amis, jusqu'à ce que je finisse. Le fait que pendant votre vie dans notre société, les gens aillent d'émotion en émotion. Ils poursuivent les sentiments romantiques, pas la vraie romance dans le vrai sens, qui sera toujours là, mais ils sont à la poursuite de sensations romantiques. Et je voudrais que vous sachiez que ce livre montre que les sociologues ont fait des tests et toutes sortes de choses, des études, et l'ont appelé amour. Moi, je les appelle sensations romantiques. Eux, ils l'appellent l'amour. Tout amour meurt, c'est la conclusion tirée dans leur livre. Et suivant leur définition, c'est vrai. Toutes ces émotions romantiques vertigineuses meurent. Tout cela meurt. Cela mourra toujours. Nous tous, qui sommes mariés depuis longtemps, réalisons que nous n'avons plus pour notre partenaire le même sentiment qu'au départ, lorsque nous avions l'euphorie de l'émotion romantique et les sensations de départ. De temps en temps, cela revient. Je confesse, et c'est merveilleux quand cela revient. Il revient très souvent chez ma femme, et j'en suis heureux. Fondamentalement, je pense que c'est cela la vraie romance, la vérité de l'amour. Mais ce sentiment romantique est une euphorie élevée, et les gens établissent des relations sur la romance. Et quand ils perdent ce sentiment, ils vont trouver une autre personne. Donc tout est de courte durée. Ainsi, vous vacillez d'une sensation à une autre, d'une émotion romantique à une autre. Vous êtes pendant un temps avec une personne. La relation commence à se stabiliser, et une autre personne croise votre chemin, et quelque chose se déclenche dans votre pensée et dans votre cœur, et vous trouvez une attirance, et vous commencez à penser à cette personne, et ses émotions s'envolent encore, et vous larguez ce gars, et vous courez vers l'autre, parce qu'il y a une nouvelle émotion, et vous passez votre vie à le faire, jusqu'à ce que vous finissiez par épuiser tout ce que vous pouviez avoir émotionnellement, comme sentiment authentique, et vous finissez seul, avec rien d'autre que le vide. Mais c'est ainsi qu'est le monde, et il ne se marie pas avec engagement, parce qu'il voit le mariage comme un engagement. Mais cela devrait être ainsi. Il ne le voit pas de cette façon, et donc il passe d'une romance à une autre romance, à une autre romance, et à une autre encore, et le résultat n'est rien d'autre que ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Le résultat le plus triste est que nous produisons une génération d'enfants désorientés, mal aimés, solitaires, isolés, qui deviennent des criminels et des inadaptés, parce qu'ils n'ont pas de bons modèles, ni de relations durables auxquelles s'identifier, et c'est tragique. Écoutez, si vous vous mariez à cause des sensations émotionnelles, vous commettez une très grave erreur. Maintenant, je ne suis pas comme cela. Il doit y avoir des sensations, mais vous feriez mieux d'être capable de voir, au-delà de cela, la vertu, le caractère. Vous feriez mieux d'être à même de voir ces valeurs et de comprendre que vous partagez les mêmes valeurs spirituelles, les mêmes valeurs de la vie. Il vous est avantageux de comprendre que vous vous engagez dans une union à vie, un homme, une femme, un lien fort, une chair, établi par Dieu, où le divorce n'est pas permis. Voilà le plan de Dieu. Pourquoi les gens de notre société ne le comprennent même pas? Je regardais une cassette vidéo hier, et j'ai entendu un orateur. Il racontait l'histoire d'un certain gentleman qui avait été dans le ministère et avait été marié pendant près de 50 ans. Ses filles se sont dans le ministère. L'un d'eux est professeur de séminaire, et il racontait l'histoire de la mort de la femme de cet homme, la mère de ses fils. Ils avaient été mariés depuis très longtemps, et un matin, en passant, il racontait l'histoire à une réunion de libération de la femme, pour essayer d'illustrer la différence entre l'amour vrai, une vraie relation, et des sentiments romantiques. Il dit qu'un matin, elle est descendue, alors qu'il prenait le petit déjeuner, comme il l'avait fait depuis de longues années. Elle mangea le petit déjeuner, s'affala sur la table. Il a pris son corps dans ses bras, et il a couru jusqu'à la voiture. Il mit délicatement son corps dans la voiture, et se dirigea à l'hôpital. Et à son arrivée, elle était décédée. Bien, il faut avoir été avec un être aimé pendant près de 50 ans, pour comprendre le vide. Ils ont eu le service d'enterrement, et tout le monde était là, ses fils étaient là. Bien entendu, ils savaient qu'elle était avec le Seigneur Jésus-Christ, et son cœur appartenait à Jésus aussi. Après les funérailles au cimetière, ils sont entrés dans la voiture, et ils étaient sur la route pour rentrer à la maison, quand il a dit à son fils, « Arrête-toi, je dois y retourner. » Ils arrêtèrent donc le véhicule et dirent, « Écoute, papa, nous ne voulons pas que tu y retournes, c'est trop douloureux pour toi. Tu n'as pas besoin de t'attrister davantage, il faut que nous rentrions. » Il dit, « Non, je dois y aller, je dois y retourner. » Ils ne réussirent pas à le convaincre du contraire. Ils firent demi-tour, et ils s'en allèrent, et il alla à la tombe. Il s'agenouilla, toucha la tombe, se tint là un instant, et dit, « Maintenant, c'est bon, nous pouvons rentrer. » Il retourna, et se mettant dans la voiture, il dit à ses fils, « Ce jour est un beau jour, c'est un jour merveilleux. » Ils demandèrent, « Que veux-tu dire ?» Il dit, « C'est exactement comme je voulais que ce soit. Mais que veux-tu dire ?»« Oh, j'ai toujours voulu qu'elle parte la première, toujours. Par conséquent, c'est un beau jour. » Ensuite, cet homme qui parlait à cette réunion de femmes disait, « Écoutez, toute personne qui connaît le vrai sens de l'amour veut toujours que l'autre parte avant, parce qu'elle ne veut pas que l'autre endure la douleur et la tristesse, l'inquiétude liée à la solitude et l'enterrement de l'être aimé. » Il a continué en disant, « J'ose dire que votre sentiment romantique et très loin de cette sensation romantique et de cette réalité. Il avait raison. Il avait raison. Mais vous voyez, les gens se contentent d'un substitut bon marché de l'amitié riche, profonde, sensationnelle et significative, que deux âmes liées par l'amour peuvent expérimenter au fil des années. Les disciples avaient besoin d'entendre la même chose que les gens d'aujourd'hui, ce que vous et moi devons entendre, c'est-à-dire que le mariage est un engagement à vie. Mais ce n'est pas une raison pour l'éviter, mes amis. C'est plutôt une raison de s'y engager. En effet, dans l'authenticité de cette amitié à vie, Dieu vous bénira d'une manière que vous ne pourrez jamais expérimenter si vous êtes célibataire, jamais. Permettez que j'aille plus loin et que je dise ceci. Je ne sais pas ce que certains d'entre vous recherchent, mais il me semble qu'au lieu de battre en retraite, certains d'entre vous devraient chercher à s'y engager et vous devez vous faire d'autres critères d'évaluation des gens. Quand je regarde autour, je vois toutes ces merveilleuses femmes célibataires et je sais qu'il y a des hommes ici, mais je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais je veux qu'ils sachent que je ne suis pas fier d'eux. J'imagine qu'il fallait que je le dise. Vous feriez mieux de voir au-delà des publicités et au-delà du glamour d'Hollywood. Et vous feriez mieux de rechercher le caractère, et une fois que vous trouvez une personne pieuse avec laquelle vous partagez des valeurs communes, en Jésus-Christ, et avec qui vous pouvez bâtir une vie profonde, sincère et significative, vous feriez mieux de saisir cette opportunité. Je crois que Dieu vous donnera des émotions qui vous rendront heureux et vous exciteront, mais il faut qu'il y ait plus que cela. Vous voyez, les disciples n'avaient pas compris, tout comme bon nombre aujourd'hui. Vous devez vous empresser d'entrer dans une relation durable, mais je vous assure qu'ils étaient de cet avis. Vous ne voulez pas vous y engager avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Alors, quand vous prenez cette décision, vous feriez mieux de vous assurer de rechercher les valeurs spirituelles et assurez-vous de vous engager avec une personne dont l'engagement spirituel est aussi profond que le vôtre. Si vous ne l'avez pas encore, alors il est préférable de ralentir le processus. Autrement, vous passerez votre vie à essayer de préserver une relation, et ça c'est difficile, très difficile. Alors d'une part, vous pouvez trouver une personne qui a la même précieuse foi et les mêmes valeurs, qui aime Jésus-Christ et possède les mêmes objectifs que vous dans la vie. Essayez de voir si Dieu ne vous unit pas. Mais d'autre part, si vous trouvez quelqu'un que vous voulez épouser rapidement, mais qui ne possède pas ces valeurs, vous feriez mieux de battre en retraite. Le mariage est une chose sacrée et le plus grand don que Dieu peut faire. Je peux vous dire, à partir de mon expérience personnelle, que tout comme lorsque vous avez deux personnes qui aiment Jésus-Christ et s'aiment mutuellement, et qui mènent leur vie ensemble sous la direction de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, il arrive des moments où c'est tellement agréable que vous devez vous pincer pour être sûr que c'est la réalité. Et c'est ainsi que Dieu avait prévu que les choses soient. Alors, au lieu de dire « Eh, jamais nous ne nous marierons s'il faut rester bloqué avec la même personne toute la vie », dites plutôt « Eh bien, si c'est le cas, je veux me marier parce que c'est le plan ordonné par Dieu, mais je veux me marier avec la bonne personne pour que je ne me sente pas coincé le restant de ma vie. Je le veux avec une personne de bon caractère, pas seulement une personne qui suscite en moi des émotions romantiques. Parce que la vérité est que si vous vous mariez pour des raisons d'émotions romantiques, vous allez en souffrir toute votre vie, devenir fou. Vous serez tenté par d'autres personnes que vous croiserez pendant votre vie, et si c'est tout ce qui fonctionne pour vous, vous serez vaincu avant même de commencer, et votre mariage ne tiendra pas longtemps. Vous ne saviez pas que tout cela se trouvait au verset 10, n'est-ce pas? Ça y est. Alors, que se passe-t-il? Que dit notre Seigneur? Il leur dit au verset 11, « Tous les hommes ne peuvent pas recevoir cette parole. » Quelle parole? La parole suivant laquelle, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas bon de se marier. Il dit que c'est une bonne idée, c'est une bonne décision. Vous restez tout simplement célibataire, et de cette façon vous évitez de vous mettre dans une situation dont vous ne pouvez pas vous défaire. Vous restez célibataire, mais il dit, « Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. » Tout le monde n'est pas en mesure de gérer le célibat, mais seulement ceux à qui cela est donné. Puis-je vous dire que le célibat est un don fait à une personne? C'est ce que Jésus dit, à moins d'être à même de gérer le célibat. Il ne sera pas la meilleure chose pour vous. Vous pouvez dire, je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas prendre un engagement. Mais vous serez embêté par une spirale d'émotions, et vous vous retrouverez tenté de toutes les façons par des pensées illicites. si ce n'est par des actes, le restant de votre vie. Certaines personnes, qui devaient s'être déjà mariées, il y a longtemps, sont encore célibataires. Pas parce qu'elles ne doivent pas se marier, pas parce qu'il n'y a personne avec qui se marier, mais parce qu'elles cherchent, probablement, la mauvaise personne. Dans certains cas, elles s'arrêtent à l'apparence plutôt qu'au caractère. Peut-être aussi qu'elles ne sont pas encore transformées, et l'autre personne, qui est déjà prête, ne peut pas les reconnaître. Mais nous devons chercher à nous marier, du moins la majorité des personnes. Et c'est ce que dit le Seigneur. Il dit que ce n'est pas tout le monde qui peut être célibataire, seulement ceux à qui cela a été donné. Tout le monde ne peut pas le gérer. En passant, le mot reçu ici est assez intéressant. Il signifie avoir de l'espace pour quelque chose, et l'usage métaphorique signifie embrasser quelque chose, avec le cœur et la pensée. Et ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Tout le monde ne peut pas supporter d'être célibataire. J'ai eu des gens qui m'ont dit, vous savez, vous auriez probablement mieux servi le Seigneur si vous étiez célibataire. Vous auriez été libre d'aller ici, d'aller là. Vous avez 4 enfants à votre charge, c'est vrai. Il y aurait eu un moment, si j'avais été célibataire, j'aurais eu plus de liberté pour faire des choses. Mais je ne suis pas de ceux qui ont reçu le don d'être célibataire. Dieu le sait. Et il en est ainsi avec la majorité des gens. Dieu nous a créés pour le mariage et pour la personne qu'il a pour nous. Le verset 12 décrit en quelque sorte ceux à qui le célibat a été donné ou qui l'ont reçu. Il y a des eunuques, le terme eunuque désignant une personne qui ne s'engage pas dans l'activité sexuelle avec le sexe opposé, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. On dira dans ce cas que c'est congénital. Il y a des gens qui naissent avec le côté sexuel non développé, avec des malformations ou autre chose, et ils n'ont pas la capacité de fonctionner dans ce domaine. Ils n'éprouvent aucun désir de fonctionner dans ce domaine. Il y a des gens qui sont ainsi faits. Ils peuvent supporter le célibat. Puis il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il s'agit ici de la castration. Il y a des gens, vous savez, en regardant l'histoire des gens des temps anciens, vous vous rendez compte qu'il y avait des hommes qui étaient choisis pour travailler dans des harems, et on les castrait, afin qu'ils ne franchissent pas les limites de ce qu'ils devaient faire auprès d'un groupe de femmes dans le harem du roi. Il y avait des païens religieux qui pensaient que la castration était un moyen de plaire à Dieu ou à leur Dieu, mais il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Bien entendu, ils ne peuvent pas fonctionner dans le mariage. Troisièmement, il dit qu'il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, non par une chirurgie physique, mais par une consécration et un engagement. Ils sont devenus eunuques à cause du royaume des cieux. En d'autres termes, il y a des personnes qui sont célibataires à cause de Dieu. Maintenant, c'est très important pour moi que vous ayez ces 3 catégories. Il y en a qui ne peuvent pas se marier et qui ne peuvent pas s'engager dans une union physique normale. Il y en a qui ne le peuvent pas à la suite d'accidents ou aux malformations ou autre chose survenue dans la vie par la volonté des hommes, d'autres mains que celles de l'hérédité. Puis il y en a, troisièmement, qui sont célibataires à cause du royaume des cieux. Vous remarquerez qu'il n'y a là personne qui est célibataire uniquement parce qu'il ne veut pas se gêner de prendre un engagement, dont il ne peut sortir parce que cela ne résout rien. Cela ne résout rien. Cela vous laisse dans un état de célibat qui vous donne d'autres problèmes, essayant de vous battre avec vos désirs. Remarquez toutefois le dernier groupe. Ils sont célibataires à cause du royaume des cieux. Paul parle d'eux dans 1 Corinthiens, quand il fait allusion à ceux qui ont reçu le don de célibat pour la gloire de Dieu et le service de Christ. Maintenant, permettez que je vous dise ceci, à vous qui êtes célibataires. Si vous tenez le célibat de Dieu, et vous ne sentez aucun besoin de vous marier, et si vous sentez l'Esprit de Dieu vous conduire au service de Christ en tant que célibataire, c'est bien, c'est très bien. Je pense que si vous en parliez avec Paul, il vous dirait que c'est mieux, parce que vous êtes libre de consacrer votre vie au service de Christ. Mais c'est la seule raison, au-delà du facteur physique. On n'évite donc pas le mariage parce que c'est un engagement. Seulement, si on ne peut pas se marier, ou si l'on choisit de ne pas se marier pour le royaume et le service de Jésus-Christ, et j'ai été en mission dans les endroits reculés du monde, et j'y ai vu ces célibataires, et j'en ai vu même dans notre Église, il leur a été donné par l'Esprit de Dieu le ministère du célibat pour Jésus-Christ, et ils sont doués de façon unique. Ils sont de merveilleuses bénédictions pour le corps de Jésus-Christ. Et je ne pourrais absolument pas le changer. Mais si vous êtes célibataire et vous essayez de vaincre et de gérer le désir de vous marier, Peut-être alors que votre célibat n'est pas un don de Dieu, mais vous devriez vous marier, et vous devez ouvrir votre cœur à une personne qui partage la même foi et les mêmes valeurs que vous. Regardez maintenant la fin du verset 12. Et le Seigneur dit ceci, « Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Comprenne quoi ? Eh bien qu'il comprenne l'enseignement. Sur quoi ? Sur le célibat ? Oui. Sur le mariage ? Oui. Surtout, nous devons entendre tout ceci. Marié, marié pour la vie, pas de divorce. Et ils disent qu'il vaut mieux être célibataire. Ils leur répondent non. Tous ne peuvent pas le supporter. Vous ne pouvez le supporter que si vous y êtes physiquement ou spirituellement disposé. Et c'est un don de l'Esprit de Dieu à ceux qui sont appelés à le servir d'une façon unique. Hormis cela, le mariage est la norme, et je voudrais que vous l'entendiez et que vous le receviez. Je crois que c'est une affirmation très importante, à la fin du verset 12. Parce que, voyez-vous, le Seigneur le met là, tout en sachant que plusieurs ne vont pas le comprendre, n'est-ce pas ? Je veux dire que si je me réfère à un groupe de païens moyens, si je descends parler au club local des Kiwanis, à défaut d'une meilleure illustration, ou si j'allais dans une classe d'une école locale et disais « Maintenant, j'aimerais que vous sachiez, chers amis, voici la loi, voici ce qu'est le standard de Dieu. Vous devez épouser une personne pour le reste de votre vie et prendre un engagement à vie, sans possibilité de divorcer. En outre, si vous êtes célibataire, restez célibataire à cause du royaume de Dieu, pas pour vagabonder. Comment serais-je reçu ? Ils demanderaient « Mais quel est cet idiot ? D'où venez-vous » Vous voyez, ils ne sont pas capables de recevoir un tel enseignement. Je vous ai raconté qu'il y a de cela des années, quand j'avais été invité au Call State Northridge par un rabbin Kramer pour le cours de philosophie. Il m'avait demandé d'intervenir sur l'éthique sexuelle chrétienne. J'y suis donc allé, mais je savais que personne ne s'y intéresserait. Je le savais. Je savais que les étudiants d'université ne s'intéressent pas à l'éthique biblique lorsqu'il s'agit de relations entre les sexes. Je savais donc que je devais bien planifier ma stratégie. J'y suis donc allé, et après avoir été très gracieusement présenté, et mon hôte était très gracieux, j'ai dit « Maintenant, pour commencer, j'aimerais dire qu'aucun de vous n'acceptera ce que je dirai. Aucun de vous ne s'intéressera à se comporter tel que je dirai que vous devez vous comporter. Aucun de vous ne voudra vivre selon ces règles de conduite. Aucun de vous ne sortira d'ici en disant « Voilà comment je veux que ma vie soit ». Ceci ira à l'encontre de tout ce que vous ressentez, et je l'accepte dès le début. Vous n'allez pas écouter ce que je dirai, et je l'accepte. Bien sûr, quand vous tenez un tel discours à des étudiants, ils disent « Vraiment ?» Et à ce moment, vous les avez exactement où vous les voulez. Et un jeune homme demanda « Mais pourquoi ? Comment le savez-vous ? Pourquoi n'allons-nous pas accepter ce que vous direz ?» J'ai répondu « À cause d'une chose basique. La Bible n'a aucune autorité dans votre vie. Parce que vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ, la Bible n'a pas d'autorité dans vos vies, et donc tout ce qu'elle dit n'a aucun sens pour vous, à moins de connaître et d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez donc pas accepter ce que je dis. » Le même jeune homme me dit, « Bien, comment le faites-vous donc ? » Et là, j'étais exactement où je voulais être. J'ai donc présenté l'Évangile de Jésus-Christ, et le rabbin a dit, « Je pense que nous devrions parler de l'éthique sexuelle. » Vous voyez, Dieu ne m'a pas appelé à redresser les bouffonneries sexuelles d'une société païenne. Ils n'y sont pas intéressés. Voyez-vous, la Bible n'a aucune autorité dans le monde. Mon message ne s'adresse pas au monde, mais aux croyants. Si vous pouvez le recevoir, il y va de votre intérêt. En d'autres termes, si vous avez la vie de Dieu dans votre âme, et vous vous retrouvez à aimer le Seigneur Jésus-Christ, et si vous vous retrouvez sous l'autorité de la parole de Dieu, alors vous feriez mieux de recevoir cet enseignement. Et l'enseignement est ceci, soit vous êtes marié à vie, soit vous êtes célibataire, pour la gloire de Dieu, ou pour une autre raison physique, pas pour que vous puissiez vagabonder sans aucun engagement. En plus, vous ne voulez pas vous tromper, n'est-ce pas ? Vous savez quand vous épousez une personne, et cela fait déjà 20 ans que je suis marié. Cela semble impossible, et ce n'est plus comme lorsqu'on venait juste de se marier. Ce moment où votre cœur bat tellement, vous savez, et vous conduisez rapidement, pour vous retrouver, et tout le reste. Et vous savez que vous éprouvez cela de temps en temps. Peut-être quand vous êtes séparés pendant un moment, et quelque chose de spécial se produit dans votre cœur. Mais cela évolue, fondamentalement, en une profonde relation d'amitié, une union de deux âmes. Un homme m'a appelé dernièrement, voulant que j'intervienne dans son église. Et il m'a demandé, viendrez-vous avec votre ami-épouse ? Ami-épouse. Je me suis dit que c'est une façon intéressante de parler de son épouse. J'y suis allé, et il m'a donné son nouveau livre qu'il venait de publier, et il était dédicacé à son ami-épouse. Et c'est ainsi que les choses sont. Ami-épouse. Une amitié qui ne connaît absolument aucune limite, aucune barrière, et aucune inhibition. La forme d'amitié la plus pure et la plus vraie, qui est l'expression de la forme d'amour la plus profonde et vraie, qui consiste à prendre soin et à tout partager. Et si vous ne l'expérimentez pas dans votre vie, vous vous privez vous-même et les excitations bon marché que vous recherchez à la fin d'une relation superficielle ne vous le procureront jamais, jamais. En tant que chrétien, vous devez entendre et recevoir ce message, afin que, une fois marié, vous sachiez que vous l'êtes pour la vie, et vous feriez donc mieux de vous marier pour autre chose, qui va au-delà de vos sentiments. Maintenant, c'est une parole forte, versets 1 à 12. Vous dites, John, j'ai beaucoup de questions. Et si je suis divorcé, marié, veuf, ou vous savez quoi? Ces questions n'ont pas de réponse dans ce texte. Mais il y a, dans le Nouveau Testament, un commentaire sur cet enseignement de Jésus. Et donc, dimanche prochain, nous regarderons le commentaire sur l'enseignement de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 7. N'y allez pas maintenant, mais dimanche prochain. Ce sera notre message de la fête des mères. Nous allons voir le commentaire de Paul sur les lois de Jésus concernant le mariage et le divorce. Voici ce que fait Paul. Jésus établit un standard divin très fort et clair, et Paul nous aide à gérer les gaffes que nous avons déjà commises. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Avant de clôturer aujourd'hui, permettez que je vous dise que je crois que cela vous sera très très utile. Je crois qu'il y a 6 raisons pour lesquelles il faut se marier, et j'aimerais vous les donner. 6 raisons pour se marier. Première raison, la procréation, avoir des bébés. Première raison, avoir des bébés. Genèse 1, amène un homme et une femme ensemble, les marie, et leur demande de faire quoi? Remplissez la terre, remplissez, ayez des bébés. Comme des flèches. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Donc le mariage existe pour que l'on fasse des enfants. La procréation. Et je vous assure que j'ai été très attristé quand j'ai fait, il y a quelques années, cette interview de CBS. Et on m'a informé que 35% des couples en âge de se marier ou de procréer sont irrémédiablement stérilisés. Les gens ne veulent pas que les enfants s'immiscent dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une relation d'amour romantique et veulent être libres de voltiger d'une relation à une autre. Et les enfants deviennent alors un problème durable. Mais Dieu sait que les enfants deviennent aussi un lien. Rien ne clarifie aussi bien votre union que lorsque vous vous voyez dans cet enfant qui naît de votre union. Le mariage est pour la procréation. Ce qui veut aussi dire que vous ne faites pas des enfants pour ensuite les fourrer quelque part. Il y a un lieu près de chez nous. Il y a un nouveau grand panneau sur le mur. Une crèche, vous savez. Je ressens quelque chose quand je le vois. Fourrez vos enfants dans cet endroit. Nous prendrons soin d'eux toute la journée, pendant que vous serez occupés à faire autre chose. Le mariage est fait pour procréer. Deuxièmement, c'est pour le plaisir. Hébreux 13, verset 14. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit est exempt de souillure. Vous ne devez rien y faire de souillant. Grande libération. 1 Corinthiens 7. Dit que votre corps ne vous appartient pas, et le corps de votre époux ne lui appartient pas. Vous vous appartenez l'un à l'autre, et l'Ancien Testament, tel que je l'ai lu dans les Proverbes, parle de la satisfaction de la relation physique, du plaisir. Le mariage, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Dieu le sait. Troisièmement, c'est pour la pureté. Dans 1 Corinthiens 7, au verset 2, la Bible dit, concernant la fornication, que chaque homme est sa propre femme. C'est pour la pureté. Quatrièmement, c'est pour la provision. J'aime ceci. Éphésiens 5 dit qu'il faut nourrir la femme, la chérir, pourvoir à ses besoins, prendre soin d'elle, être comme un sauveur pour elle. Le mariage consiste à prendre ces femmes qui sont libres et pourvoir à leurs besoins. Une à la fois, toutefois. Mais la Bible enseigne que le mariage est une provision de sécurité. C'est pourvoir pour l'autre, en prendre soin, nourrir et chérir. Pourvoir, en fait, la Bible dit que si un homme ne pourvoit pas aux besoins de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Le mariage est une provision pour la sollicitude du vase faible, afin qu'elle puisse s'épanouir dans la procréation et la compagnie dans le mariage. Ainsi donc, le mariage, c'est pour la procréation, le plaisir, la pureté, la provision. Cinquièmement, c'est pour le partenariat. C'est pour le partenariat. Quand Dieu créa Ève, qu'est-ce qu'il dit qu'il fit à Adam ? Une aide. Une aide. Quelqu'un qui vient aider pour que vous ne fassiez pas tout seul, pour que vous le fassiez ensemble. Il y a la force dans cette communion, n'est-ce pas ? Je reconnais devant vous que ma femme est forte dans les domaines où je suis faible, et que je tends à être fort, là où elle est faible. Et c'est ainsi que les choses doivent être. Elle me parle quand il faut, et si elle ne le faisait pas, elle ne serait pas ma force dans ma faiblesse. Elle a une merveilleuse façon de me rappeler mes faiblesses. En fait, je peux l'entendre avant même qu'elle ne l'exprime. Je sais, règle numéro 8, pas besoin de l'énoncer. Mais il y a un vrai partenariat, n'est-ce pas ? Un vrai partenariat. Je veux dire, je viens ici, je travaille ici, j'étudie ici, et je fais ce que je dois faire. Et elle est à la maison, à pourvoir aux besoins de la maison, tout ce dont les enfants ont besoin, tout ce dont j'ai besoin pour être libre de faire ce que je fais. C'est un vrai partenariat. Je pourvois toutes les ressources dont elle a besoin pour faire ce que Dieu lui a confié. Et c'est cela le partenariat. Finalement, le mariage est une image. C'est une image, mais une image de quoi ? C'est une image de Christ et quoi ? Son Église. Éphésiens 5. C'est une démonstration graphique au monde que Dieu aime et entretient une relation infinie avec l'épouse qu'il aime. Il vit pour elle et est mort pour elle. Et j'ose dire que toute la métaphore du mariage, en tant que symbole de Christ et de son Église, a reçu un coup parce que le divorce, les mariages malades, sont tellement répandus dans l'Église. C'est triste parce que la métaphore du mariage est une si belle façon d'illustrer la relation de Dieu avec son Église, et nous avons, je crois, flanqué cette métaphore par terre. Dieu a ordonné le mariage pour la procréation, le plaisir, la pureté, la provision, le partenariat, et comme une image de sa relation avec son Église. Dieu avait prévu que le mariage soit pour la vie, plein d'amour, qu'il soit béni, qu'il soit épanouissant, qu'il soit la grâce de la vie, et cela ne donne aucune raison de s'en éloigner. C'est plutôt une raison de s'y engager. Mais quand vous vous y engagez, assurez-vous que ce soit pour les bonnes raisons, avec la bonne personne, parce que très vite, vous allez oublier à quoi vous ressemblez. Et il vous sera même difficile de dire, mais vous saurez à quoi vous ressemblez, tous les deux, en termes de caractère et de valeur. Cela tient jusqu'à la fin. Soyez célibataire si Dieu vous a créé ainsi, ou si vous l'êtes, en tant que don pour servir dans le royaume. Si vous pouvez le comprendre, comprenez-le, et vous n'en êtes capable que si Christ est au contrôle de votre vie. Des psychologues ont mené une étude d'où il est sorti une théorie suivant laquelle vous êtes ce que vous êtes parce que vous vous ajustez par rapport à la personne la plus importante de votre vie. Quelle que soit la personne la plus importante de votre vie, c'est à cette personne que vous essayez de plaire. Très simple pour le chrétien, n'est-ce pas ? Qui est la personne la plus importante de votre vie ? Christ. Ceci règle toute la question, parce que maintenant, nous pouvons dire « Je le reçois », si vous le dites. C'est l'ordre de Dieu. Baissons nos têtes pour prier. Père, fais ton œuvre dans chaque cœur. Merci de nous avoir donné le standard divin. Et maintenant, nous savons où nous en sommes. Nous pouvons mesurer nos vies par rapport à ce standard et voir. Nous savons que là où nous défaillons, tu nous pardonnes. Là où nous tombons, tu nous relèves. Là où nous sommes abattus et brisés, tu nous restaures. Et tu sais reconstituer tous les morceaux d'une vie mal vécue. Père, aide-nous à affirmer le standard et à poursuivre la semaine prochaine en voyant comment gérer toutes les difficultés. Donne-nous une compréhension claire de l'application de ton standard divin pour nous. Seigneur, je prie pour les jeunes gens de cette Église qui pensent au mariage. Guide-les en vue d'une bonne décision et d'un engagement à vie. Pour ceux qui viennent de se marier et qui se demandent ce qu'il adviendra, s'ils ne ressentent plus la même chose, aide-les à bâtir un amour profond, vrai et durable. Fais de chacun d'eux une personne qui partage la grâce de la vie. Pour ceux-là qui pensent au divorce ou qui se battent avec un mariage qui s'écroule, accorde ta grande force et ta puissance pour supporter cette union et faire ta volonté. Pour ceux qui ont péché et qui se demandent comment revenir, nous savons que tu accordes le pardon et la restauration. Dieu, fais des mariages de cette Église, des mariages qui peuvent être une image de Christ et son Église rachetée. Nous faisons toutes ces prières pour une seule raison, que Christ soit glorifié, lui à qui nous appartenons et que nous servons. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.